ça sente bon. Veux-tu monter dans mon bateau?
Ton bateau, il est pas beau.
Veux-tu monter dans mon bateau? Il est pas bien beau, mais il y va sur l'eau. Je l'ai qu'il te jette à l'eau.
Je veux monter dans ton bateau. Ton bateau, il est très beau.
Tu viendras pas dans mon bateau. Il est bien trop beau pour t'emmener sur l'eau.
Mais qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu?
La géométrie youpi de Radio Cartable.
Bonjour, nous sommes les élèves de 6e 3 et de 5e 3 du collège Assia Djebbar.
Savez-vous que nous avons été contactés par le Louvre pour le vol du tableau de Mona Lisa? Nous cherchons des détectives pour nous aider à mener l'enquête.
Vous pouvez découvrir les 10 suspects sur notre tableau des suspects disponibles en ligne sur le site Radio Cartable.
N'hésitez pas à regarder les cartes d'identité des suspects pendant le jeu.
Maintenant, voici deux premiers indices.
Chaque indice vous aidera à innocenter des suspects.
Nous le répétons deux fois, puis vous aurez le temps de débarrer les suspects qui sont innocentés.
Écoutez bien.
Indice numéro 1.
Notre première recherche nous a permis de découvrir un témoin clé. Ce témoin a vu le coupable. Il nous a dit que le coupable était un polygone.
Je répète, le coupable est un polygone. Polygone.
Indice 2.
Nous avons du nouveau. Une personne nous a dit que le coupable avait plus de 3 côtés.
Je répète, le coupable a plus de 3 côtés.
Avez-vous réussi à innocenter 4 suspects? Bravo! Alors rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre l'enquête.
Allô? Je suis bien au studio de Radio Cartable?
Oui, oui.
Alors, je m'appelle Jean-Jacques Charbonnier, je m'occupe de l'association Aradel et je voudrais faire une annonce concernant un magnifique concours.
Bonjour Jean-Jacques Charbonnier, je m'appelle Yanis. Pouvez-vous vous présenter?
Ben, je m'appelle Jean-Jacques Charbonnier, comme tu l'as dit, je suis président de l'association Aradel. C'est l'association qui s'occupe de Radio Cartable.
Bonjour je m'appelle Isaac. Comment va se passer le concours Radio Trouille ?
Alors, le concours qu'on va organiser, c'est un concours qui s'appelle Radio Trouille. Pourquoi Radio Trouille ? Parce que ça va être un concours d'histoires qui font peur. Alors, on propose toutes les classes, les écoles, les enfants d'Ivry, de faire une petite séquence, une histoire qui fait peur. Il faut aussi que cette petite histoire ne dure pas plus de 5 minutes.
Okay.
Voilà. Alors, pour faire cette séquence, on peut nous envoyer les séquences toutes faites. Ou bien Radio Carta peut prêter du matériel pour que les classes enregistrent leur histoire qui fait peur.
Bonjour, c'est Mathéo. Qui participe au concours ?
Tout le monde. Toutes les classes peuvent participer. Tout le monde peut participer au concours, tous ceux qui ont envie.
Bonjour, c'est Riaz au micro. Es-tu obligé de participer ?
Non, on n'est pas obligé. Si on n'a pas envie d'avoir de cadeaux et si on n'a pas envie de raconter une histoire qui fait peur, on ne participe pas.
D'accord. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a Radio Trouille ?
Non, Radio Trouille, c'est pas la première fois. Alors, au départ, il y a une séquence qui avait été inventée par des enfants de Maurice Thorez, des classes de Maurice Thorez, en 2005, je crois, et qui avait donc inventé une série d'histoires qui s'appelait Radio Trouille, qu'on a pu écouter déjà quelques fois sur Radio Cartable. On les a rediffusées il n'y a pas très longtemps.
Comment s'inscrit-on au concours ?
Alors, pour s'inscrire au concours, on s'inscrit sur la boîte mail de Radio Cartable. Alors, on envoie les fichiers les fichiers d'enregistrement, les enregistrements, à Radio Cartable, radio-cartable@ouvaton.org. Si les fichiers sont trop lourds, si ça passe pas bien, on passe par une boîte qui transfère les fichiers qui sont très lourds, qui prennent beaucoup de place. On peut utiliser 8 transferts, par exemple.
Combien aura-t-on de temps pour faire l'histoire ?
Le temps pour faire l'histoire, il faut que les fichiers, on les ait avant le 25 mars. Donc, vous avez depuis aujourd'hui, puisqu'on vient de lancer le concours, jusqu'aujourd'hui 4 février, jusqu'au 25.
Et combien devrons-nous faire de scènes maximum ?
Ça dépend, les scènes... Ça peut être une histoire d'une seule scène, ou ça peut être une histoire avec beaucoup de scènes. Il n'y a pas d'obligation pour le nombre de scènes.
Et on est obligé de faire une histoire de 5 minutes ?
Oui, c'est pas dire, ça veut pas que ce soit trop long, donc on va éviter de faire des histoires trop longues. Donc on a limité le temps, à 5 minutes. Maintenant, si ça en fait 5 minutes et 15 secondes, on acceptera.
Merci.
Si ça fait moins, c'est pas grave.
Est-ce une bonne idée d'apprendre les histoires par cœur avant de les enregistrer ?
Non, c'est pas une bonne idée. Pour bien enregistrer, pour bien bien dire sa séquence, il faut bien préparer son texte, le lire plusieurs fois, se préparer, s'entraîner à bien dire avec le ton, avec les intonations qu'on a choisi de faire. Ensuite, quand on enregistre, on regarde son texte. Avant de le dire, pour se rappeler ce qu'on a à dire, on évite de le lire, on le dit, on regarde sa feuille, et puis après on dit le texte, comme ça on le dit comme si on parlait normalement. Si on l'a bien préparé, on le sait un peu par cœur, parce qu'on l'a beaucoup lu, mais on le sait pas complètement par cœur. Si on l'apprend trop par cœur, ça devient trop mécanique, après ça fait un peu machine, quoi.
Et est-ce qu'on peut choisir les sons ou les bruitages qu'on veut faire ?
Bien sûr, c'est les enfants qui choisissent tout. C'est eux qui font leur cuisine qui fait peur.
Comment on va faire pour vous envoyer les histoires ?
C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On utilise la boîte mail de Radio Cartable. radio-cartable@ouvaton.org. Et on l'envoie là. Voilà, c'est tout, simplement. Et s'il y a un souci, on téléphone à Radio Cartable ou on envoie un message à Radio Cartable et nous, on essaiera de se débrouiller.
Sur le site ?
Sur le site de Radio... Sur la boîte mail de Radio Cartable, on l'envoie. Okay.
Le prix sera-t-il donné à la meilleure histoire ou à celle qui fait le plus peur ?
Bah, le prix sera donné à la meilleure histoire qui fait le plus peur, parce que comme c'est le concours, un concours d'histoire qui fait peur, la meilleure histoire sera celle qui fait le plus peur. Mais il y a aussi, ce qui comptera aussi, c'est la façon de présenter l'histoire, la façon de raconter, les bruitages, tout ce qui a été mis en œuvre pour que cette histoire soit intéressante. Donc il faut que ça soit une histoire passionnante quand même. Bien sûr, voilà. Mais on fera plusieurs prix, donc il y aura peut-être le prix de la meilleure mise en son, le prix de l'histoire la plus originale, des choses, voilà.
Et comment la radio annoncera-t-elle le vainqueur?
Alors il y a un jury qui n'est pas encore tout à fait défini, qui va se réunir. Ce jury sera composé d'élèves, de gens de l'association Radel, d'anciens élèves aussi, de professeurs, et puis on annonce qu'on se mettra d'accord pour dénoncer. Il y aura 4 prix en fait. Hein. Le micro d'or, c'est celui qui aura le grand prix, et puis il y aura 3 prix aux histoires les plus époustouflantes, grinçantes et truculentes. Ça fait 3 autres prix. Et puis ça sera annoncé les histoires vont être diffusées au mois d'avril, le jeudi 2 et le jeudi 23 avril 2020, et le prix, lui, sera annoncé le jeudi suivant, c'est-à-dire le jeudi 30 avril.
Quelles sortes de prix seront décernés?
Les prix, ça va être D'abord, ça va être l'honneur de gagner le prix, et puis ensuite, nous, on va donner des petits cadeaux qui sont des DVD de films d'horreur, qui font peur, et aussi des livres qui font peur. Voilà.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que vous serez nombreux à participer. Nous avons hâte d'entendre vos histoires.
Eh ben moi aussi, j'ai hâte. Continuez merci. Comme ça, c'est très bien.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir. Si.
Au revoir, merci.
Radio Trouille. On vous emmène dans la cour de récréation, où d'étranges arbres, peut-être bien plus dangereux que des lions ou des tigres, retrouvez tout de suite l'arbre aspirateur. Et tremblez, chers auditeurs.
Qui nous est arrivé à l'école Maurice Thorez B.
Radio Trouille.
Bonjour, je m'appelle Adnan. C'était l'heure de la récré. On jouait à chat avec Kevin, Mogoulou et Jérémy. Mogoulou se cachait derrière un arbre, on l'a entendu crier.
Oh, au secours, au secours!
Et Jérémy est allé voir.
Où es-tu?
Dans l'arbre, il m'a aspiré. Il fait tout noir et froid.
Radio Trouille.
Moi, je suis parti derrière un arbre et je me suis fait aspirer à mon tour. J'étais dedans dans l'arbre et j'ai vu mon goulou. J'ai entendu un cri. Il faisait tout noir et il faisait tout froid.
Moi et Kevin, on est partis chercher les filles et à mon tour, je me suis fait aspirer. Et j'ai dit, Kevin, fais quelque chose!
D'accord, je vais aller voir les animateurs.
Radio Trouille!
Et donc, je suis allée voir les animateurs. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Qu'il y avait un arbre qui avait inspiré mes trois copains. Alors, ils m'ont pas cru et ils ont rigolé d'un rire moqueur. Alors, je suis repartie à l'arbre.
Au secours! Au secours! À l'aide! Sortez-nous de là! À l'aide! À l'aide!
Et après, Jérémy avait une idée.
J'ai une idée! J'ai ma corde à sauter, je veux te la lancer et tu vas nous la tirer de l'autre côté.
Bon, j'ai fait ce qu'elle m'a dit et je les ai tirés et ils sont ressortis du tronc et ils étaient sauvés.
Ah, on était sauvés! Tout à coup, l'arbre a perdu ses feuilles. On a entendu un souffle. Eh, il a disparu!
Et nous n'avons jamais su ce qui s'était passé. Cette histoire nous est vraiment arrivée. Nous l'avons vraiment vécu. Ça s'est passé le 9 novembre 2004, un lundi. Et nous sommes 4 élèves du CE1B. On est dans l'école Maurice Thorez B. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir, passez une bonne journée.
Radio Trouille, vous avez peur.
Thank you.
Radio Trouille, vous avez peur.
Je m'appelle Issa.
Bonjour, je m'appelle Priscilla.
Bonjour, je m'appelle Jovine.
Nous sommes en CE1B de l'école Maurice Thorez B.
Notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon.
Radio Trouille.
Auditeurs de Radio Cartable, préparez-vous à trembler devant votre radio.
Bienvenue dans un numéro de Radio Trouille.
Nous étions partis à la piscine avec notre classe, avec Issa, Priscilla, Jovine, Anthony et moi, Rama. Et on était tous les cinq dans le même groupe, le groupe des plus bons nageurs. Il y avait Priscilla, Jovine et Anthony qui étaient en train de nager dans le grand bain. Et Issam et moi, on attendait notre tour.
Radio Trouille.
Moi et Rama, on était sur le banc. On encourageait nos amis.
Allez, allez, Anthony, allez, Jovine, allez, Anthony.
Allez, Anthony.
Soudain, on a vu une grande ombre qui faisait à peu près 2 mètres. On savait pas qu'est-ce que c'était, moi et Rama. Alors on a crié. Sortez de l'eau. Il y a quelque chose derrière vous.
Elle est énorme.
Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il y a près de 2 mètres.
Sortez de l'eau.
Radio Trouille.
Moi, Priscilla, j'étais au train de nager. Après, j'ai vu Anthony et Jovine sortir rapidement. Après, j'ai entendu Rama et Issam crier.
Vas-y, au secours, Priscilla sort de l'eau. Il est bien fait. Allez, dépêchez-vous. Sortez de l'eau.
Après, je comprenais pas qu'ils se disaient. Après, j'ai continué à nager. Et là, j'ai senti quelque chose sous moi. C'était quelque chose qui était énorme. J'ai paniqué, j'ai eu peur. À cause de ça, j'ai bu la tasse. Au secours, aidez-moi.
Pendant ce temps-là, les maîtres nageurs discutaient avec notre maîtresse. Ils n'ont pas vu que Priscilla allait se faire manger. D'un seul coup, la bête a sorti sa gueule de loup. Une gueule avec plein de dents partout. Et les yeux de cette bête étaient tout rouge. Priscilla criait.
Au secours, aidez-moi, aidez-moi à l'aide. Il y a un loup sur moi.
Au secours, aidez-moi.
Radio Trouille.
Moi, j'avais vu une perche que le maître nageur utilisait. Je l'ai lancé juste à temps dans la gueule de la bête. Et là, la bête a crié. C'était un hurlement terrible qui glaçait le sang.
Radio Trouille.
C'est alors que cette énorme bête est devenue toute petite.
Il ne faisait plus que 1 centimètre environ. Et il s'est échappé dans la bouche d'évacuation au fond de la piscine. Priscilla a été sauvée, mais le maître nageur n'a rien vu. Et on n'a jamais su qu'est-ce que c'était cette bête.
Radio Trouille.
Radio Trouille, vous avez peur.
Écoutez ce qui se passe.
Dans la classe de CP3.
Dans l'école de Maurice Thorez B.
Le lundi 30 février
2020.
La forêt de Radio Cartable.
Il était une fois dans l'école Maurice Thorez B. Une classe de CP qui avait vécu une aventure terriblement affreuse. Comme tous les matins, mon élève écrivait la date au tableau. Aujourd'hui, c'était ma honte. Lundi 1er mars. À ce moment-là, la maîtresse devint toute rouge de colère. Ses sourcils étaient de travers et elle cria.
Quel jour sommes-nous, Mao ?
Tout blanc, les larmes aux yeux, il répondit d'une petite voix.
Ben, le lundi 1er mars.
La maîtresse rugit.
Saperlipopette, tu sais bien que nous sommes le 30 février, espèce de gros bébé. Toute la classe était terrorisée. Les élèves se cachèrent sous leur table. La maîtresse ne respirait plus. Elle était de plus en plus rouge. Elle ne bougeait plus.
Les élèves sortirent tout doucement, en silence dans le couloir. Et là, ils virent des bonbons. Tout contents, ils les mangèrent et sans s'en rendre compte, ils se retrouvèrent devant le studio de Radio Cartable. Un bruit étrange en sortait.
Ils ouvrirent la porte et virent une forêt de bonbonniers des arbres sur lesquels poussent des bonbons. Les bonbons les attireraient dans la forêt. La porte se claque et disparut.
Ils entendirent une voix de fantôme.
Bienvenue dans la forêt de Radio Cartable.
Les enfants étaient effrayés, terrorisés, terrorifiés. Mais tout le monde le sait. Les enfants sont très gourmands. Vous souvenez-vous de... Ansel et Cretel, ils cueillirent tous des bonbons et se régalent.
Miam, 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 miam.
Mais un des bonbons était l'interrupteur. Dès qu'il le mangea, ils se retrouvaient tous dans le noir.
Ah, au secours, j'ai peur du noir. Aglaga.
Et les lumières clignotèrent.
Ça manque ou quoi?
Les lumières se rallumèrent. Ouf!
Les enfants!
Alors, comme ça, vous avez touché à nos bonbons, non d'une brouette en bois. Je vous avais prévenu à cause de vous, nos arbres sont abîmés. Nous avons plus de bonbons. Bande de cornichons, vous ne reverrez jamais votre maison.
Les méchants s'approchèrent du gentil. Soudain, un super-héros arriva avec toutes ses chimères. Un colon qui faisait un poisson qui faisait un chausson qui faisait une touche qui faisait une varée qui faisait. Ils griffèrent les méchants, les mordirent, les mangèrent.
Le super-héros redessina une porte et dit aux enfants: sortez d'ici avant que tout disparaisse. Les enfants se précipitèrent dehors, la porte claqua, il y eut un grand bruit, puis le silence. Alors, les élèves virent leur maîtresse arriver. Elle était redevenue normale, mais ne se souvenait de rien.
Les enfants lui racontèrent tout, alors elle les remercia. Vous m'avez sauvé la vie, merci les enfants.
Une douce musique sortait du studio de Radio Cartable. La maîtresse entra et trouva une boîte posée sur la table. Prenez cette boîte de la part de super-héros.
Dans cette boîte, la paix nous crème. On l'a planté dans le petit jardin de l'école. Une devine ce qui a poussé. Un bonbonnier.
Radio Cartable, notre histoire va vous faire peur, très peur.
Il était une fois une ville reculée qu'on appelait Monstreville, près de la forêt des monstres, à quelques pas de Paris.
Un habitant, Majesté Méchité, aime bien se cacher dans les buissons et cuisiner des soupes. Il a des cheveux hirsutes et des oreilles de lion. Au matin, il prend des crêpes et aime faire de la gymnastique. Cela le rend fort. Parfois, on l'entend dans la forêt ricaner.
Qui te mange, mouton ?
C'est pas toi, Méchité, c'est moi. T'as faim, Méchité ? Mange ton pied et ne mange pas le deuxième. Laisse-le pour demain.
Bon, revenons à notre histoire. Ça se passe à minuit et il y a une bataille monstrueuse dans la forêt. On dit que certains cerveaux ont été mangés par un petit zombie.
C'est la nuit. On entend un monstre ou plusieurs monstres faire des blagues sanglantes.
Deux œufs dans un frigo qui se parlent. Il y en a un qui dit à l'autre:
Mais t'es vachement poilu, toi.
C'est normal, chat, kiwi, banane.
Tout près, l'école des monstres est un internat. Les élèves n'y sortent jamais. L'un des élèves est Majesté Méchité. Il est gigantesque et très fort. Il aime faire de la gymnastique. Au réveil, ses yeux sont rouges et il n'a pas de cheveux. Il est grognon. Il n'a pas d'amis. Il est seul.
Voulez-vous écouter ma blague? Comment Dracula prend-il un clou? Mais avec ses dents de vampire!
La maîtresse a été mangée. Il lui a croqué un bras, alors dans le réfectoire, c'est la catastrophe. Les aliments sortis frigo. On entend des bruits de hibou et un cri de loup.
J'aime imiter le cri du loup.
Un nuage noir vient sur Monstreville et aspire l'école des monstres.
Majesté Méchité se fait emporter dans la forêt des anges. Il n'aime pas les anges. D'ailleurs, le dieu de la forêt des anges
l'a puni en le rendant trop mignon. Il est furieux, mais il est prisonnier.
Dans l'école des méchants, c'est la guerre. Après avoir tué la maîtresse, il y a du sang sur tous les bureaux des enfants. D'ailleurs, ils ont pris la tête de la maîtresse pour en faire un ballon de foot. Ils ont pris aussi une de ses oreilles pour la mettre dans la serrure. On ne voit plus rien, sauf une ombre passer dans le couloir. Une autre ombre sort par la fenêtre.
La directrice affolée arrive.
Où est la maîtresse du CE1A?
Elle est allée à la piscine.
La directrice sort rassurée. Un bruit de chaise cassée. Le monstre Méchité est revenu. Il a si faim qu'il mange presque chaque enfant de l'école. Mais le fantôme de la maîtresse rôde dans les parages.
Vous m'écoutez encore?
Oui.
Oui. Ce n'est pas grave parce qu'un héros va arriver pour régler nos problèmes et nous sauver. Il va arriver d'une minute à l'autre. Il est bientôt là.
Eh oui.
Avez-vous déjà entendu une pomme chanter?
Non.
Moi, j'ai entendu une carotte râper.
Salut. Je suis un personnage de l'histoire. Penses-tu qu'il va y avoir un héros vraiment?
J'habite Monstreville et je t'écoute.
Oui, le héros c'est Yves, c'est quelqu'un de très bien et tout le monde le connaît dans la ville. Yves rit tout le temps.
Yves tue le monstre avec son rire.
Il y a eu une ville qui s'appelait Monstreville.
Aujourd'hui, en l'honneur d'Yves, celui qui rit, on l'appelle Ivry.
Radio Trouille, vous avez peur.
Quelle
Radio Trouille.
Bonjour, nous sommes Yuna, Iris et Marthe. Nous sommes en CM de A et B à l'école Maurice Thorez B. Et nous allons vous présenter notre histoire qui fait peur. C'était un après-midi ensoleillé dans un village des Alpes. On ne pouvait rêver mieux comme moment pour aller fleurir la tombe de sa tante. C'était en tout cas ce que pensait Jeannette, l'une des 14 pensionnaires de la maison de retraite de la commune. Âgée de 87 ans, elle mit plus de 2 heures à rejoindre le cimetière situé dans le village voisin. Elle fut donc essoufflée lorsqu'elle arriva au portail. Sa fille, son gendre et leur fils Paul, âgé de 6 ans, l'attendaient devant le cimetière. Ce fut donc à 4 qu'ils en franchirent le portail. Au bout de quelques mètres parcourus, Paul se mit à courir en poussant de petits cris joyeux. Il fut vite hors de vue des 3 adultes. Son père, sa mère et sa grand-mère ne s'en inquiétèrent pas jusqu'au moment où ils entendirent.
Un hurlement a glacé le sang. Un mélange de désespoir, de malheur, de douleur et d'horreur. Les parents de Paul crièrent son nom en vain. Mais il était trop tard. Leur grand-mère avait elle aussi disparu. Après une longue nuit passée dans le désespoir, Paul se transformait petit à petit en une ombre sans vie. À son tour, il était prêt à tuer.
Ignorant le danger, Jeannette vagabondait entre les tombes. Soudain, elle arriva devant un caveau très étrange. En effet, le caveau mesurait 5 mètres de hauteur. Et par contre, il était étroit et la peinture s'écaillait sur la porte. Poussée par la curiosité, elle s'avança dans la pièce. Elle fut très étonnée de voir que le caveau se prolongeait en un long tunnel étroit. Elle le suivit, de plus en plus intriguée. Jeannette était jusque-là assez calme, mais elle ne put plus contenir sa peur lorsqu'elle arriva dans une crypte sombre où gisait son petit-fils Paul dans une mare de sang. Au-dessus du cadavre se trouvait une forme sombre, maculée de sang. Horreur ! Jeannette ne bougeait plus, paralysée.
Radio Trouille, vous avez peur ?
Yes, ça fait plaisir. Bon, je décroche. Allô ?
C'est André, ton grand-père. Ça va ?
Oui, ça peut aller. Mais tu devrais plutôt me demander si j'ai bien dormi. J'ai fait une insomnie de 21h à 4h30 du mat, et à peine je me rendors que tu me réveilles. C'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Bon, pourquoi est-ce que tu m'appelles ?
Alphonsine, écoute-moi. Je suis au centre hospitalier de Chambéry, en Savoie. Ta grand-mère est allongée en face de moi. Elle a eu une crise cardiaque. Les médecins la considèrent comme une patiente à risque. Son cœur bat très lentement et elle est en insuffisance respiratoire. Elle est encore consciente, mais plus pour longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux la voir, c'est maintenant ou jamais. Les médecins estiment à peu près 3 jours d'espérance de vie. C'est ton choix, pas le mien. Je reprenais mon souffle. Mon grand-père n'avait pas une voix normale. Enfin, je veux dire, il était sur le point de perdre mamie, mais quand même. Pas un bonjour, pas un mot gentil. Mais Qu'est-ce que je me disais? C'était mon grand-père quand même et il était sur le point de perdre mamie. Ok, j'arrive. Je t'aime et dis à mamie que je lui fais de gros... Enfin, d'énormes bisous, qu'on la soutient, qu'on est avec elle, qu'elle va s'en sortir, qu'on pense à elle, qu'on l'aime de tous nos cœurs et que je l'aime. Alphonsine, arrête. Ok, je lui dirai tout ça. Bon, au revoir. Bouleversée. C'est ce que je suis. Je m'appelle Alphonsine Duchesne. J'ai 19 ans, je suis rousse, j'ai les yeux verts et je suis enfant unique. Mes parents sont morts dans un accident d'avion il y a un an. Ils partaient pour le Mexique car mon père et son club de rugby, les petits pères, organisaient tous les deux ans des voyages à destinations étrangères. Ils s'appelaient Blandine Brunet et Antoine Duchesne. Mon père et ma mère sont morts le 3 août 2019. Je vis maintenant à Paris, dans le 4e, dans une très grande maison que m'ont légué mes parents. Mon anniv est le 1er avril, donc j'avais déjà 18 ans quand ils sont morts, et j'ai donc pu me débrouiller toute seule. Le frère de mon père est serviteur de la reine d'Angleterre, et il gagne 30 000 euros par mois, donc j'ai droit à 15 000 euros chaque mois. Vous allez croire que je suis une fille du luxe, mais non, oubliez ça. Et sinon, à propos de l'école, eh bien, mon université a fermé à cause du Covid-19. Donc là, eh bien, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus d'école, j'ai pas de parents, et bien sûr, pour couronner le tout, ma grand-mère est sur le point de mourir, et je dois faire le choix si oui ou non, je dois aller la voir pour son dernier souffle. Eh bien, je pense que finalement, je vais continuer ma nuit. Le matin. Bon, allez, je fais ma valise et je pars. Courage, tu peux le faire. Je sors du lit. Je prends une douche et je m'habille. Tenue, pantalon en velo noir et chemise blanche. Je prends mon petit déj et je prépare un sandwich saumon chèvre salade. Je prépare ma valise pour un mois. On sait jamais. Je commande un billet de train pour 11h, plus un taxi. Le temps du trajet est d'à peu près 7h, donc je devrais arriver à 18h. Je prends ma valise et mon sac à dos contenant sandwich plus dessert, bouteille d'eau, MP3, Renault, Pixies, Aldebert, Chopin, Choriste, Queen, Beatles, Jean-Jacques Goldman, un téléphone, une carte de France, plus de Savoie, une boussole, je compte faire des randonnées, mon appareil photo, 3 romans et une BD format poche, un doudou, je sais, j'en ai encore à mon âge, pas de commentaires, une trousse, un carnet, mon porte-monnaie et mon trousseau de clés, et au cas où, hein, un paquet de mouchoirs. Et en route pour l'aventure et pour sauver mamie. Le taxi est arrivé à 10h, comme prévu. Je suis montée et le conducteur a pris mes affaires pour les mettre dans le coffre. J'ai joué au jeu le plus bête du monde, Candy Crush. Nous sommes arrivés à l'écart sans incident. Il est 10h15. J'entre dans un magasin librairie et j'achète un magazine et des anis à la menthe fraîche. Je rentre sur le quai, je monte dans le train et je me fraye un chemin sur la gare. J'arrive dans le train et... j'arrive à Chambéry. Je rentre dans l'hôpital, je demande à la concierge où sont Madame et Monsieur Duchesne. Madame et Monsieur Duchesne n'ont jamais mis un pied dans cet établissement, désolée. Mais si, si, cherchez bien. Non, non, je ne l'ai pas. D'accord. Je trouvais ça bizarre, très bizarre. Mes grands-parents n'étaient pas rentrés dans cet hôpital. Bon. Je sors de l'hôpital et je décide de rentrer chez mon grand-père à pied. Je pousse la porte de chez lui. Qu'est-ce que je vois dans son salon? Deux corps morts, lui et sa femme. Je m'évanouis. Il paraît que deux randonneurs, amis de mes grands-parents, voulaient lui rendre visite. Ils ont poussé la porte, comme moi, de sa maison et ils m'ont trouvé évanouie avec deux corps morts, leurs amis. Ils ont appelé la police, l'hôpital. Évidemment, on n'a rien pu faire pour mes grands-parents. Par contre, moi, évidemment, je suis toujours en vie. On a pu arrêter celui qui avait fait ça. Depuis, je ne sais pas pourquoi, je me suis engagée dans la police. Et j'aime toujours autant ce métier.
Radio Trouille. Radio Trouille. Radio Trouille.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour à tous. Je suis Claire Mogg, je suis conseillère pédagogique à Ivry-sur-Seine. Conseillère pédagogique signifie que je donne des conseils dans le domaine du comment apprendre et comment faire apprendre. Alors Mathis, pour me présenter plus particulièrement, donc ma mission principale est d'accompagner pédagogiquement les enseignants et les équipes des écoles d'Ivry, que ce soit par des formations, des ressources, ou parfois aussi un suivi individualisé pour les enseignants qui entrent dans le métier. Et avant d'être conseillère pédagogique, j'ai été enseignante de la maternelle jusqu'au CM2, ce qui est une expérience bien évidemment très utile pour ma fonction actuelle.
Quel sentiment avez-vous ressenti lorsque vous avez écouté les histoires ?
Alors Olivia, en écoutant les histoires, j'ai ressenti beaucoup de choses. Du plaisir à les écouter, et puis effectivement parfois avec le suspense et les ambiances créées, une peur, une attente hein, de ce qui va se passer, hein, de mystérieux dans les histoires créées. Et puis aussi également un partage de joie qu'on entend véritablement dans certaines histoires également, avec, j'ai cru comprendre, beaucoup d'amusement dans les enregistrements lorsqu'ils ont eu lieu. Et ce que j'ai entendu aussi, Olivia, derrière chaque histoire, c'est le travail d'écriture, l'entraînement aussi à se lire, à se relire à voix haute. On a l'impression que c'est facile comme ça en entendant les histoires qui sont fluides, agréables à entendre. On a l'impression que c'est facile et que ça vient tout seul, mais je sais le travail que ça peut représenter. Un travail de réflexion, seul ou à plusieurs, pour la sonorisation de l'histoire également. J'ai entendu que certains ont utilisé des instruments de musique, différents types de bruitages, comme à certains moments, par exemple, du papier froissé, et puis aussi beaucoup de modulation de la voix.
Je crois que le jury a beaucoup apprécié la cryptantée. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette histoire ?
Alors, Shaima, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est tout d'abord l'interprétation. Ce qui m'a plu dans La forêt de Radio Cartable, c'est cette histoire d'arbre à bonbons qui m'a semblé très originale. Et puis, dans Bataille à Monstreville, c'est le côté humoristique, bien sûr, et de vouloir tuer les monstres avec le rire. J'ai trouvé ça tout à fait poétique. Et puis, bien sûr, avec le jeu de mots sur la création du nom de la ville d'Ivry. Voilà. Sur la fin glaciale à Chambéry, je trouve aussi qu'il y a un travail très intéressant et très riche en ce qui concerne l'interprétation et puis l'écriture de l'auteur. Voilà.
Comment vous avez fait pour donner les notes ?
Tu as bien raison de poser cette question sur les notes, parce que ça a été un moment compliqué pour tous les membres du jury d'attribuer une notation, hein, avec des critères que nous avions, donc qui vous ont été aussi communiqués. Donc effectivement, l'originalité, notée sur 5 points, la création sonore également sur 5, l'interprétation sur 5, et le trouillomètre, sur 5 aussi. Alors, quand on écoute une histoire, quand on reçoit ces belles créations sonores, effectivement, il y a une grande part de subjectif, et on a aussi envie de savoir derrière qu'est-ce qu'en ont pensé les élèves du jury, qu'est-ce qu'en ont pensé les autres adultes du jury, c'est-à-dire avec leurs mots, leurs ressentis. Évaluer, ça veut dire étymologiquement donner de la valeur. Donc effectivement, les notes que l'on reçoit, que l'on donne à l'école, elles sont là pour valoriser un travail, valoriser un effort, valoriser aussi un progrès. Et donc, ce qu'elles doivent exprimer, ces notes en termes pédagogiques, c'est plutôt un message, en fait, un message vers les élèves, plutôt qu'une mesure, en quelque sorte. Alors là, le message que l'on donne dans le cadre de ce concours, en tout cas le message que j'aimerais donner, c'est que vos histoires, toutes d'une grande qualité, les unes et les autres, Vos histoires, j'espère, donneront l'envie à encore plus d'élèves l'année prochaine de participer à ce concours de Radio Trouille.
Est-ce que cela fait une différence que les histoires soient inventées par les grands de CM2 ou les plus petits de CP ou de CE1?
Oui, je pense que dans la conception, que dans l'écriture, que le travail de vocalisation des histoires n'est pas le même pour les différents niveaux de classe, bien sûr. Qu'on peut développer les compétences langagières des élèves de manière progressive selon les niveaux de classe.
Est-ce que vous aimez faire radio cartable? À quoi ça sert?
Ça sert à savoir s'exprimer si on a un peu la honte. On peut combattre la peur de s'exprimer devant tout le monde.
Et si on est timide?
Alors Mathis, ta question, j'aime beaucoup Radio Cartable tout court, en tant qu'habitante. J'habite Ivry depuis 17 ans et effectivement, en tant que conseillère pédagogique, je trouve que c'est vraiment un très bel outil pédagogique pour la ville.
Radio Trouille.
Le flamant rose mange les haricots et il aime la nature. Il porte un chapeau et de drôles de chaussures. Il était une fois des animaux marrants qui font tout le que parfois ça fait rire les enfants. Le flamant rose va de l'eau. Et tout à coup il voit un lion qui lui aussi boit de l'eau. Et qui a mangé aussi un mouton. Il était une fois des animaux marrants qui font une drôle de tête parfois. Ça fait venir les enfants. Un éléphant marche, il fait trop de bruit. Un dragon qui vole dans le ciel. Dans la nature, les chevaux mangent de l'herbe verte.
Parfois, ils mangent la rose. Les fois, la porte est ouverte.
Le crocodile court dans les roses.
Il était une fois des animaux marrants
qui font une drôle de tête.
Parfois, ça fait rire les enfants.
Le crocodile nage dans l'eau.
Les serpents dans une maison.
Les oiseaux font un nid tout là-haut. Les enfants achètent des bonbons.
Il était une fois des animaux marrants.
Ils font une drôle de tête
parfois. Ça fait rire les enfants.
Un pigeon vole
dans le ciel.
Décidé, s'était introduit dans la chambre. Il transformait le rideau en voile, faisait se pencher les fleurs dans leur grand vase, à terre, et s'attaquait à présent à son sommeil. C'était un vent de printemps, le premier, Il sentait les bois, les forêts, la terre. Il avait traversé impunément les faubourgs de Paris. Les rues gavaient d'essence. Et il arrivait léger, fanfaron, à l'aube, dans sa chambre, pour lui signaler, avant même qu'elle ne reprît conscience, le plaisir de vivre. Elle referma les yeux, se retourna sur le ventre, chercha de la main, à tâtons, sa pendule par terre, le visage toujours enfoui dans l'oreiller. Elle avait dû l'oublier, elle oubliait toujours tout. Elle se leva avec précaution, glissa la tête par la fenêtre. Il faisait sombre, les fenêtres en face étaient fermées. Ce vent n'avait aucun sens commun de circuler à cette heure-là. Elle se recoucha, rabattit ses draps énergiquement autour d'elle et fit quelque temps semblant de dormir. En vain. Le vent paradait dans la chambre. Elle le sentait s'énerver dans la mollesse penchée des roses, du gonflement effrayé des rideaux. Il passait sur elle par moments, la suppliant de tous ses parfums de campagne. « viens te promener avec moi. »
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec l'accompagnement technique de Xavier Lecomte, que je remercie et salue très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Jessica Nelson et à son cinquième roman, L'Orageuse, paru aux éditions Albin Michel et qui vient de recevoir le prix littéraire de la ville de Verneuil, d'Avre et d'Iton. Ville où repose Louise Collet, le personnage principal de son roman, qui fut notamment la maîtresse de Gustave Flaubert. Mais je laisse à Jessica Nelson le soin de vous présenter les principaux épisodes de cette vie infiniment romanesque. Jessica Nelson, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez de publier aux éditions Albin Michel un roman dont le titre est L'Orageuse, qui est un roman avec pour personnage principal, effectivement, une orageuse, Louise Collet. Et en couverture, je peux lire la citation suivante, « Je peux faire comprendre à toutes les femmes ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut exiger. » Je suppose que cette citation mise en exergue, ce n'est pas un hasard, Jessica Nelson.
Tout est toujours très pensé. Oui, c'est une citation qu'elle a dû envoyer dans une lettre à un député de Roumois à l'époque, dans les années 1850, qui était, qui était son galant, son amoureux. Et c'est un moment de sa vie. Alors sa vie est très riche, très complexe. Elle embrasse tout le 19e siècle. Je pense qu'on le verra ensemble. Et donc c'est une période de sa vie où, en effet, elle commence à prendre des positions qui sont très affirmées dans tout ce qui concerne le féminisme, hein, puisqu'on peut déjà commencer à parler de féminisme à cette époque-là, l'art, la culture, la politique, et c'est une femme qui assume ses convictions.
Alors pourquoi ce roman, Jessica Nelson? Est-ce que on a l'impression vraiment que Louise Collet, d'abord c'est une ingérable, qu'elle est surdouée. Voilà ce que vous écrivez. Louise était capable de réciter des chapitres d'ouvrages qu'elle n'avait pourtant lu qu'une fois et des pages entières de poésie en plusieurs langues. Donc déjà ça nous situe un personnage hors norme, surdoué, une force de la nature, on pourrait dire.
Exactement, je trouve que le terme est très bien trouvé pour elle. C'est une femme qui naît en 1810 dans une famille qui a quelques moyens, dans une famille qui a d'ailleurs une bastide dans le sud de la France, qu'on appelle un peu pompeusement le château de Servanne. Elle est d'ascendance plutôt aristocrate du côté de sa mère et de négociants qui ont quelques quelque argent du côté de son père, mais elle bénéficie d'une éducation qui est assez étonnante pour une femme de cette époque. Et elle est dans tout de suite, hein, dès qu'elle est petite, elle a cette appétence pour apprendre. Et donc évidemment, comme elle a un père qui va et une mère qui sont des lecteurs, qui sont des gens sensibles à l'art et à la culture, évidemment, elle va tout à fait en bénéficier. Donc elle va apprendre plusieurs langues à cette époque, elle va lire beaucoup, la bibliothèque de son grand-père maternel d'ailleurs, et tout ça va contribuer à en faire une femme extrêmement lettrée dans un siècle où les femmes ne sont pas censées l'être, ou en tout cas c'est pas la norme.
Et pourquoi vous êtes-vous intéressée à Louise Collet? Est-ce que c'est son côté encore qu'on doit la découvrir? Est-ce que ce sont ses lettres, ses manuscrits, puisque vous intéressez beaucoup aux manuscrits? Quel a été un peu votre déclic de départ?